d'une autoroutière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises.
Antoine. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on s'entretient avec le collègue Alain Laforêt de TVA qui nous parle d'abord de l'immigration, ce sujet qui colle à la peau de François Legault, qui ne cesse de revenir le hanter, entre autres par sa propre faute, mais aussi celle de son ministre, Jean Boulin. Alain nous parle également de la virée éclair dans l'Est du Québec de François Legault, où ce dernier est allé calmer la colère qu'il habitait après le débat des chefs. C'était le calme après la tempête. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre. Nadeau, Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Moi, je suis dans l'autobus vers l'Abitibi-Témiscamingue. Et toi, tu es à Québec, à Stoneham, plus précisément. Alors, dis-moi, parle-moi de Jean Boulet un peu, même si je vais en reparler avec Alain Laforêt un peu plus tard. Jean Boulet, ministre de l'Immigration, évidemment.
Ben, je voulais juste souligner que c'est, je trouve ça très dommage pour Jean Boulet parce que en début de mandat, on a plus souvent qu'autrement félicité le fait que c'était un ministre qui était vraiment fiable pour le gouvernement Legault. C'était le ministre de l'Emploi et du Travail. Puis dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il arrivait quand même à faire en sorte que le gouvernement soit pas trop amoché, tu sais, malgré la situation difficile et qui faisait beaucoup l'objet d'attaques. Il a hérité de l'immigration chemin faisant là lorsque François Legault a voulu enlever un peu de responsabilité à Nadine Giraud qui était aux prises avec la maladie. Puis là, ben c'est, fait qu'on peut dire que dans le cas de ce qui se produit, le fait donc qu'un extrait d'un débat qui s'est déroulé en Mauricie s'est mis à circuler aujourd'hui, là, étrangement, quand même 5-6 jours après que ça se soit déroulé. Ben là, évidemment, ça le met complètement dans l'eau chaude. C'est pas la première fois qu'il y a une bourde, parce que on se rappelle qu'il avait déjà dû corriger un tweet qu'il avait envoyé en disant que le gouvernement fédéral devait fermer le chemin Roxham.
Oui.
Et il avait fait un lien en disant qu'on doit se mobiliser devant la remontée des cas de COVID pour pas surcharger notre système de santé. Puis il avait dû dire après là, que ça manquait là sérieusement d'humanité. Là, il l'avait admis. Il s'est déjà retrouvé aussi en porte-à-faux avec M. Legault parce que il avait commenté une proposition d'augmenter légèrement les seuils d'immigration en disant que c'est une proposition raisonnable qu'il allait regarder. Puis après ça, M. Legault avait dû comme le forcer à remettre la pâte à l'œuf dans le tube.
Ben oui.
Non, c'est pas plus que 50 000. Mais là, ce qui arrive là, c'est sûr que là, ça, c'est vraiment, écoute, c'est toute qu'une série sur le Sunday.
Ben oui, sa déclaration va dans le sens complètement inverse de celle qu'il avait faite sur la hausse des seuils.
Oui, ben tu sais, je dirais en plus, c'est parce que c'est complètement inexact, tu sais, quand il dit 80%
ben
des
oui.
immigrants qui sont à Montréal, qui travaillent pas, qui parlent pas français, tu sais, qui ont pas adhéré à nos valeurs, c'est rempli d'inexactitudes et ça laisse croire comme à une espèce de ramassis de préjugés. Donc c'est, je trouve ça vraiment désolant. C'est une grosse gaffe et je trouve que c'est dommage pour lui parce que M. Legault l'a d'emblée disqualifié du poste de ministre de l'Immigration là, dans un second mandat. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas ministre du tout, mais son étoile pâlit. Je trouve que c'est une fin de mandat en disgrâce avec ce qui s'est produit. C'est vraiment, vraiment désolant.
Parlons de Dominique Anglade maintenant, qui est allé en entrevue au journal. Tu l'as eu en entrevue. Comment ça s'est passé? Et quelles sont ses excuses pour le fait que ça va assez mal, finalement?
Oh, oui, ben c'est ça. On a eu l'occasion de s'entretenir avec elle, avec mon collègue Patrick Delrose. Et elle a elle-même avancé le fait que le passé libéral pouvait avoir quelque chose à voir avec la manière dont l'actuel parti est, avec elle est perçu.
Mm-hmm.
Et je trouve que c'est pas habile parce que tu sais, comme moi, là, on arrive, là, c'est vraiment le dernier droit. Il reste quelques jours pour mobiliser tes sympathisants, des gens qui font partie de la grande famille pour que ils donnent un coup de main, peut-être, et qu'ils aillent voter aussi. Puis là, ben, c'est comme pointer du doigt les années couillard, parce que lorsqu'elle a dit ça, par la suite, ben là, on a cherché à la faire détailler davantage. On s'est dit, OK, qu'est-ce qui a vraiment fait mal? Moi, je lui demandais, Mme Anglade, qu'est-ce que les gens vous ont dit quand ils vous voient et qu'ils vous disent, c'est pour ça que je voterai pas pour vous? Puis elle m'a parlé, par exemple, des choix du précédent gouvernement Couillard en matière de garderie. Tu te rappelles que Couillard avait modulé les tarifs de garderie en fonction des revenus des parents. Là, pour des gens, là, ça a fait une facture qui a augmenté de quelques milliers de dollars là, que les gens devaient payer en faisant leur rapport d'impôt. Le fait qu'ils se sont tournés davantage vers les garderies privées, elle a parlé aussi, sans le nommer, mais un peu de la réforme Barrette en disant, ben nous, maintenant, c'est de la décentralisation en santé, donc en voulant dire que c'est pas ce que c'était avant. Mais je reviens au fait que il en demeure pas moins que à ce moment-ci, je trouve que c'était peut-être pas indiqué pour elle. En tout cas, je pense qu'il peut y avoir un effet pas souhaitable pour la mobilisation à quelques jours de vote.
Ben oui, sur l'électorat, sur des gens qui ont voté pour ces gouvernements-là, Couillard et Charest, mais même qui ont travaillé, ils doivent être un peu découragés de se faire pointer du doigt, c'est ça?
Bien, pense même, par exemple, à des élus là, qui ne sollicitent pas de nouveaux mandats, mais qui étaient ministres dans ce gouvernement-là. Et là, est-ce que tu vas leur dire, vas-tu pouvoir nous donner un coup de main pour le dernier week-end, le jour du vote? Je suis pas sûr qu'ils vont peut-être avoir moins d'empressement là, avec ce genre de commentaires.
Oui, ça résume peut-être le problème de Dominique Anglade, c'est qu'il y a plusieurs libéraux qui se rendront pas voter, qui vont être démobilisés. Ça annonce peut-être, en tout cas, une partie du problème, des problèmes de Dominique Anglade. Enfin, justement, tu es allé te promener à Montréal, toi, dans des circonscriptions qui pourraient... Que le Parti libéral pourrait perdre.
Exactement. Je suis allé dans Maurice-Richard. On se demandait un petit peu quel était le pouls sur le terrain. On s'attend quand même à une lutte serrée.
Oui.
Marie Montpetit a été ministre libérale. Elle est exclue du caucus après des allégations de harcèlement. Puis elle se représente pas, donc n'est plus sur les rangs. On se doutait qu'il pouvait y avoir un impact, mais écoute, je l'ai constaté sur place. J'ai passé toute la journée samedi au complet à me promener dans le parc Confic, sur la rue Fleury, au parc Maurice-Richard. Tu sais, je suis allé à la rencontre des gens et on m'a parlé beaucoup de Québec solidaire. Moi, à la lumière de cette tournée-là, si j'avais là une gageure à prendre, je te dirais que Québec solidaire va l'emporter. Et
moi aussi, je suis passé avec Québec solidaire, justement avec la caravane, dans le comté. On a rencontré Haroun Boisy, là, qui se présente dans ce comté-là. Moi aussi, j'ai comme eu l'impression, mais c'est sûr que c'était avec l'organisation de Orange, donc je me suis dit peut-être que c'est une illusion. On se méfie toujours de ce qu'on voit, mais toi, tu sembles confirmer que l'impression est sans doute juste.
Ben écoute, dans toute une journée là, de rencontres aléatoires avec des citoyens, là, une seule personne m'a dit qu'assurément il voterait libéral. On m'a parlé, donc comme je te disais, beaucoup de Québec solidaire. Quand même pas mal aussi du Parti québécois. Puis tu sais, Camille Lorrain, Maurice Richard avant, c'était Crémazie.
Oui.
C'est une circonscription qui a alterné entre péquistes et libéraux là, au fil des années.
Lisette Lapointe, je me souviens, a été députée de Crémazie.
Jean Campeau aussi, par exemple, dans le passé. Alors, j'ai senti aussi ça, là, le fait qu'il y avait comme un fond vraiment tu sais, de souverainisme, des gens qui s'étaient peut-être éloignés un peu du PQ, mais qui ont remarqué là, les efforts de Paul Saint-Pierre Plamondon et qui j'ai trouvé des gens qui hésitaient soit entre le PQ et Québec solidaire ou entre la CAQ et le PQ.
La CAQ a une candidate quand même de choix, là. Audrey Murray, avocate, qui est au partenaire du marché du travail, ancienne vice-présidente de la Commission de la construction, si je ne m'abuse.
Oui, bien c'est ça. C'est une candidature de grande qualité. Et je te dirais que oui, tu sais, j'ai senti des appuis à la CAQ là, sur le terrain, mais notamment là, des gens qui me disaient on avait voté pour la CAQ en 2018. On trouvait qu'elle avait commencé là à faire des choses qui avaient de l'allure, mais tu sais, tout a été figé par la pandémie. On aimerait ça qu'ils aient la chance de faire un 4 ans normal.
Ah oui.
Alors il y avait ce genre de commentaires là. Et ce que j'ai remarqué, c'est vrai, je voulais te dire ça, Antoine. Ça fait quelques fois que je le sens dans d'autres circonscriptions, mais particulièrement dans Maurice Richard.
Oui.
Il y a des gens qui me disent qu'ils vont voter pour Québec solidaire, mais qui sont assez satisfaits dans l'ensemble du gouvernement Legault.
Ah oui.
Tu pourrais dire que c'est un non-sens, mais les gens sont conscients que la CAQ va être réélue au pouvoir et ils veulent, comme qu'il y a une espèce de caution environnementale dans l'opposition, tu sais, qu'il y a des partis qui poussent un peu dans le dos de la CAQ sur ce sujet-là. Mais ils se disent, il y en a qui me disaient, moi, avec la CAQ au pouvoir, je suis loin de déchirer ma chemise. Ils sont quand même relativement satisfaits de comment ça se déroule.
Ouais.
Mais il y en a qui me disent, c'est vraiment en matière environnementale où ils voient pas de projet porteur ou de vision suffisante du côté de la CAQ. Alors, c'est pour ça un peu qu'ils penchent et qu'ils disent, ben moi, je vais voter pour Québec solidaire pour, dans le fond, pousser dans le dos du gouvernement et le forcer à être meilleur, notamment. Sur la question environnementale.
Bien. Ben, merci beaucoup, Rémi Nadeau.
Ben, ça me fait plaisir. Il ne reste plus que quelques jours de campagne.
Oui, c'est vraiment la dernière ligne droite. Mais ça va être épique en fin de semaine avec, je pense, le convoi des camionneurs. Puis ça va être quelque chose.
Et il y aura aussi le dernier sondage de la campagne publié dimanche.
Il reste un peu de baseball à jouer, comme on dit.
Exact.
Merci, salut.
Là-haut sur l'autobus. Embarquez avec Antoine Robitaille dans l'autobus de la campagne.
Et bonjour Alain Laforêt.
Bonjour Antoine.
Bienvenue à Là-haut sur l'autobus. On est vraiment là, on peut pas être plus dans l'autobus. Correspondant parlementaire de TVA à l'Assemblée nationale, Alain, François Legault est encore empêtré dans le dossier de l'immigration.
Oui, puis c'est assez particulier parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'il dit qu'il veut, entre autres devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain aujourd'hui,
oui.
Il a dit clairement, puis il a accusé clairement un journaliste, entre autres, de trop lui parler du troisième lien, puis de trop lui parler d'immigration.
Oui.
Mais c'est lui qui arrête pas d'en parler.
Absolument.
Il ramène le sujet de l'immigration à l'avant-scène et qui avance des idées qui font réagir.
C'est ce qu'il nous avait dit samedi aussi, ouais. Qu'il était tanné de parler d'immigration puis de troisième lien, puis qu'il voulait parler d'éducation.
Sauf...
En entrevue exclusive, sauf pas pour... exclusive, mais en entrevue au journal.
T'sais, là, à chaque fois que je parle d'immigration, là, les gens pensent que parce que j'exige, écoutez, vous avez entendu comme moi des députés libéraux dire « c'est bien effrayant, moi je parle portugais, puis ils vont exiger que je parle français, sinon... Ben, » Écoutez, là, c'est un sujet qui est délicat, mais j'ai pas changé d'idée. Délicat. L'immigration, c'est délicat de parler d'immigration. Il y en a qui s'amusent rapidement à faire des amalgames.
Oui.
Sauf qu'aujourd'hui, il est rattrapé par une déclaration de Jean Boulet,
ouais.
Faite lors d'un débat à Radio-Canada il y a une semaine. Ce qui veut dire que durant une semaine, il n'y a personne d'aucun des partis qui a soulevé cette déclaration-là. Il n'y a personne de l'équipe de campagne, parce que l'équipe de campagne suit Jean Boulet. Il y a des gens du cabinet du premier ministre ou des cabinets qui sont avec les candidats et qui écoutent les débats, et qui suivent les candidats et qui n'ont pas avisé le cabinet du premier ministre cette déclaration-là pour le préparer, parce que c'est certain que ça allait rebondir. Bon, la déclaration, pour ceux qui ne l'ont pas entendue, c'est de dire que 80 % des immigrants qui vivent à Montréal ne travaillent pas, ne parlent pas français et n'adhèrent pas aux valeurs québécoises. Bon, c'est certain que ça allait rebondir à un certain moment donné.
Mais c'est parce qu'il y a une erreur de fait, là. C'est une erreur de fait.
Une semaine avant que ça rebondisse.
Exactement.
Donc, aujourd'hui, lorsque cette déclaration-là refait surface, t'as la mairesse Valérie Plante qui demande à Jean Boulet de retirer ses propos parce qu'elle dit « c'est pas vrai qu'on fait pas d'intégration à Montréal ». T'as Jean Boulet qui s'excuse en disant « mes propos ont été pris hors contexte, c'est pas ce que je voulais exprimer, c'était pas ma pensée ». Et là, ça force le premier ministre sortant à rabrouer
Absolument.
À rabrouer Jean Boulet, et pas seulement à rabrouer Jean Boulet, à dire qu'il n'est plus qualifié pour occuper le poste de ministre de l'Immigration. C'est ce qu'il a dit sur les ondes d'LCN à notre collègue Mario Dumont. Mais on va écouter François Legault qui rabroue Jean Boulet.
Jean Boulet, là, c'est pas ce qu'il pense. Il a fait une erreur de jugement. Je le dis, je regrette ce qu'il a fait. Je peux pas en ajouter plus que ça.
Donc, c'est en termes forts là, qu'il l'a fait. Là.
Absolument. Oui. Il n'y a pas le choix de faire ça parce que, évidemment, on le sait, là, il y a eu un déferlement de critiques de la part des oppositions et on le sait très bien, là, entre autres, Dominique Anglade va s'en servir en disant, regardez, il n'est pas capable de faire de l'intégration, il ne veut pas que les gens viennent habiter au Québec. Mais il s'est fait poser la question également au niveau des seuils d'immigration par le président de la Chambre de commerce, Michel Leblanc, où il a dit que lui, le seuil de 50 000, c'était suffisant et que d'aller au-dessus du seuil de 50 000, c'est suicidaire pour la nation québécoise. Et lorsqu'il parle de suicidaire pour la nation québécoise, c'est l'intégration aux Français.
Mm-hmm.
Et là, le président de la Chambre de commerce a dit non, c'est pas suicidaire. Nous, c'est pas ce qu'on voit. Mais on en a parlé tous les deux, là.
Oui.
On a ramené l'épouvantail de la Sun Life. Lorsqu'on a adopté la loi 101...
Oui, rappelle ça un peu, oui, c'est ça.
En 1977, lorsque la loi 101 est adoptée, les grandes entreprises ont dit « on va quitter, on va s'en aller à Toronto ». Mais M. Leblanc l'a évoqué, cette possibilité-là, en disant qu'il y a des entreprises, entre autres dans les hautes technologies, on parle de super informaticiens ou de gens qui sont très spécialisés en aéronautique, qui, lorsqu'ils sont approchés, là, on est dans la perception, et Dieu sait que la perception, c'est important.
Oui.
Se font dire par ces entreprises-là, non, 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 au Québec, ça va bien, on vous laisse le temps de s'intégrer, mais ces gens-là laissent sous-entendre qu'ils pourraient aller s'installer en Ontario.
Ça, c'est la critique du monde des affaires à l'endroit de la loi 96.
La loi 96 et du fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, entre autres, pénurie de main-d'œuvre spécialisée qui empêche la progression de certaines entreprises, qui empêche d'avoir des contrats. Sauf que François Legault, lui, maintient que 50 000, c'est le seuil. C'est ce qu'on est capable. Et lorsqu'on lui a posé la question en mêlée de presse par la suite, il a persisté à signer. Le mot « suicidaire », pour lui, ça ne répond pas aux critères du Québec de faire une intégration.
C'est risqué pour le Québec pour le français, c'est ça, d'aller
Alors,
plus
lui,
loin que 50
000. On va pas plus haut que 50 000. C'est ce qu'on est capable d'accueillir. Puis évidemment, si on dit 50 % va à Montréal, c'est juste 25 000 employés que tu envoies à Montréal. Là. Le 25 000 autres, en principe, selon ce que la Coalition Avenir Québec prône, va se retrouver dans les régions, là, parce que pénurie de main-d'œuvre, c'est pas juste à Montréal que ça se vit. Là. Mm. Ça se vit particulièrement dans d'autres régions, surtout à l'extérieur de Montréal.
Donc c'est ça, il s'est retrouvé encore pris avec cette question-là.
C'est pas
pris.
Fini.
Ouais. Ah non, c'est
il
pas
va,
fini.
Il va être obligé de s'expliquer là-dessus encore et encore, peut-être 24, 48 heures.
Pourtant, c'était le calme après la tempête. Tu sais, habituellement, on dit le calme avant la tempête. Là, je trouve qu'après la tempête Fiona, il était redevenu un peu plus zen, M. Legault. T'es allé avec lui aux îles, justement, où il y avait deux chapeaux.
Oui.
Ça a été, toi, t'étais embarqué là, dans la caravane caquiste dimanche. Puis tout de suite, il fallait partir pour les îles de la Madeleine avec le premier ministre, mais aussi le chef caquiste.
Bon,
c'est la même
la
personne, mais ils ont deux chapeaux. Oui.
Parlons de la bonne humeur.
Oui.
Bon, il faut comprendre que François Legault, c'est son premier mandat à titre de premier ministre.
Oui.
C'est quelqu'un qui a beaucoup, dans l'opposition, été à l'offensive, à l'attaque. Là, il ne peut pas toujours à l'attaque. C'est lui qui gère le Québec. Donc, il ne doit pas parler uniquement à sa base électorale. Il doit se faire rassembleur et parler à l'ensemble des Québécois. Puis, on l'a vu, là, on a suivi la campagne. Il était un peu bougon.
Je comprends.
Pas très content souvent, mais j'ai l'impression que la pression des débats était énorme.
Oui.
Et qu'il voulait performer.
Mais encore vendredi, le lendemain du débat, il s'est déchaîné sur Éric Duhem, là, en disant qu'il s'était disqualifié comme premier ministre parce qu'il niait les chiffres de l'Institut du Québec.
Mais encore là, l'Institut de la statistique du Québec. Les conservateurs mous pour les ramener à la Coalition Avenir Québec parce que la CAQ ratisse.
Mais en termes très durs.
Tous les partis, Antoine.
En termes très durs, alors que je trouve samedi et dimanche, il s'était vraiment calmé.
Oui. Oui. Ben, aux îles. Bon, évidemment, double chapeau. Et il a tenu à préciser que c'est la Coalition Avenir Québec qui a payé son déplacement pour cette tournée-là dans l'Est, qui était très serrée.
C'est un des deux chapeaux qui a payé.
Et oui, mais c'était important. Puis rappelons-nous, en 2018, Philippe Couillard avait fait la même chose lorsqu'il y avait eu la tornade F0 en Outaouais, particulièrement à Gatineau.
Ah oui!
On s'était rendu là-bas. La plupart des chefs de parti sont allés rencontrer les sinistrés. Là, c'est un peu le même principe. On se retrouve avec Fiona, où il y a des secteurs des îles de la Madeleine qui ont été plus touchés. Il y a des dommages importants, entre autres à l'église, où le gouvernement s'est engagé à retravailler là-dessus, à travailler davantage sur l'enrochement. Et là, on est dans le volet environnement. Ça aussi, beaucoup critiqué. On est dans la perception que la CAQ n'en fait pas assez. Sauf qu'il y a eu, il y en a eu de l'enrochement, entre autres, aux îles de la Madeleine, dans le secteur de la Grave, qui est le secteur historique, et ça a bien fonctionné. Mais les roches sont venues de Terre-Neuve en barge.
Ah oui?
Là, il y a une partie qui a été faite, puis il y a une autre partie qui n'a pas été faite. Il y a eu quand même d'inondations. Mais François Legault n'a pas rencontré beaucoup de gens, a rencontré le maire par intérim, a rencontré la propriétaire du Café de la Grave qui a sauvé son immeuble. Là, la terrasse est partie avec l'eau.
OK.
A rencontré une propriétaire d'un commerce aussi qui a été inondée. Et le matin, ça allait de soi. On s'attendait peut-être à ce qu'il y ait des militants de la CAQ parce que la lutte est chaude là-bas. Aux
ben oui. Madeleine. Il y a Joël Arsenault.
Joël Arsenault a gagné par 15 voix de majorité sur les libéraux à la dernière campagne. Là, en jasant avec les gens, on comprend, bon, il y a une bonne poche du Parti québécois qui est encore là. Les solidaires sont également là. Il y a la CAQ parce que...
Est-ce qu'on sent que c'est chaud quand on pense là?
Les gens disent
sur le terrain,
que, oui, on n'a pas eu le temps beaucoup de jaser avec les gens.
Non,
là,
hein?
Ça a été
un voyage éclair.
Éclair et avec pas beaucoup de temps. Là, c'est activité, puis vite. Là, on n'a pas fini une place qu'il faudrait déjà être rendu à l'autre place.
Ouais.
Sauf qu'on constate que les îles, comme plusieurs circonscriptions de l'Est du Québec, la CAQ aimerait bien faire une percée là-bas. Il n'y a rien. Là. On n'a pas de possibilité actuellement d'avoir obligé d'envoyer des ministres responsables. Donc, on aimerait bien avoir Jonathan Lapierre, très apprécié comme maire des îles de la Madeleine. Maintenant, est-ce que les gens vont voter pour lui? Parce que ce qu'on dit là-bas aux îles, c'est la bataille des chaises.
Oui.
Donc, est-ce que tu prends ton fauteuil, tu l'amènes à l'Assemblée nationale, puis l'autre va prendre son fauteuil de l'Assemblée nationale pour l'amener à la mairie? Parce
c'est
que Jonathan Lapierre a dit, moi, je me représente pas comme maire là, si je perds l'élection. Là. Alors, pour lui, c'est terminé.
Un genre de troc.
Et François Legault est allé ajouter, ça, c'est une demande des maires de l'ensemble des municipalités côtières, 100 millions, entre autres, pour faire l'adaptation au changement climatique. Alors là, on parle d'enrochement, on parle d'endiguement, on parle de travaux.
Ouais.
Peut-être mettre des maisons sur pilotis ou des édifices sur pilotis. On a vu ce qui s'est passé avec le château du Bic à Chandler.
Ah ben oui.
C'est des choses comme ça là, qu'on veut éviter. La technique d'enrochement qui est particulière, utilisée par le ministère des Transports, très contestée aux îles, les gens trouvaient ça laid. Mais les ingénieurs des îles avaient dit, lorsque les vagues vont se mettre à frapper cette montagne de roches-là, ça va se sculpter. Mais écoute, c'est plus des plages de sable, là. C'est des plages de cailloux. Là.
Ah
oui.
On parle
de cailloux de 4-5 cm. Ce n'est pas des grosses roches, c'est des cailloux. Mais là, on a vu là, que la vague, Fiona, avait forgé une ondulation avec ces cailloux-là. Il semble que ça ait fonctionné parce que ça a résisté. Là, le sable n'est pas retourné dans le golfe Saint-Laurent. Là.
En Gaspésie aussi, ça a été très rapide sur la côte
Gaspésie,
nord.
Ça a été clair. Là. Ça a duré 15 minutes, point de presse, où on a annoncé... Mon Dieu, une baisse de 50 % Antoine, de ton permis de pêche et de ton permis de chasse pour les gens de 65 ans et plus. Bon, c'est intéressant là, pour les gens qui vivent en région. C'est un passage. Il faut aller faire un tour. Où ça a été
Mais
plus intéressant, c'est Sept-Îles.
Ah oui.
Pourquoi?
Donc, bon, sur la Côte-Nord, à ce moment-là.
Il est allé appuyer sa candidate qui vient de la communauté Innu, Catherine Champagne-Jourdain, qui, évidemment, s'est percé encore une circonscription qui appartient au Parti québécois. Mais il a rencontré, entre autres, les leaders Innu. Et il a promis, s'il est réélu, une entente historique pour mars 2023, où, entre autres, il leur donnerait une certaine possibilité, entre autres, peut-être, de faire une espèce de hydroénergie Innu.
Ah oui?
Alors, il signe une entente avec trois... Il dit qu'il va s'entendre avec trois communautés sur 11, et qu'après, il veut peut-être s'entendre avec trois nations sur 11, mais il pourrait s'entendre avec des communautés par la suite. Mais il dit que c'est une entente historique. Mais attention, territoire indivisible, il n'y a pas de droit de veto. Donc, c'est une entente avec des chaînes, au fond, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Ils ne pourront pas tout faire ce qu'ils veulent.
En terminant, Alain, on est en route vers l'Abitibi-Témiscamingue.
Ça aussi,
on
ça
s'en
risque...
va vers... On n'est pas encore passé à Mont-Laurier, on a encore de l'Internet, mais...
Ben, c'est la fonderie Horn, ouais. Là. Et c'est
ben oui, ça va être quelque chose à Rouen.
Là, il y a un débat là-bas qui fait court et François Legault tient toujours le même discours depuis le début. Il veut que ce soit la population qui décide. C'est 600 emplois. Est-ce qu'on ferme la fonderie parce qu'on est... parce que l'entreprise Glencore dit qu'elle est incapable d'amener ses émanations à 3 nanogrammes par mètre cube. Elle dit qu'elle peut atteindre le 15. La santé publique dit que c'est acceptable. Il y a 3 médecins qui ont envoyé une lettre des médecins qui sont là-bas en Abitibi-Témiscamingue en disant que non, ce n'est pas acceptable et que non, ce n'est pas sécuritaire. Alors là, c'est le débat de qui dit vrai et quel sera le choix de la population. Et Glencore est sorti pas plus tard qu'il y a une semaine en disant aux gens de Rouyn-Noranda, arrêtez d'invectiver les travailleurs qui travaillent à la fonderie parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est nourrir leur famille.
Ben oui.
Puis eux aussi le subissent.
C'est tout un dilemme.
Pas d'hier.
Ben oui.
On est en train de faire la route pour se rendre en Abitibi. C'est une route que je faisais en 1987.
Ah oui?
Il y avait des problèmes de contamination aux métaux lourds en 1987. Puis ce sont encore les mêmes problèmes de contamination en 2020.
Bon, ben on va sûrement reparler parce qu'on s'en va là-bas tous les deux. Il y aura plusieurs points de presse là-dessus. Et le premier ministre redira ses lignes à ce moment-là. Merci beaucoup, Alain Laforêt.
Cube Radio.